Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Vous vous souvenez sans doute de Fiona, une petite blonde de 5 ans aux yeux bleus, disparue en 2013. À la télé, sa maman, Cécile Bourgeon, suppliait qu'on lui rende sa fille chérie. Elle disait qu'on la lui avait enlevée dans un parc de Clermont-Ferrand. Jusqu'à ce qu'on découvre que c'est elle et son compagnon qui l'avaient tuée et enterré son cadavre. Explorons ensemble la côte B du dossier d'instruction de Cécile Bourgeon.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers.
Ondelat raconte. Côte B sur Europe 1.
En 2013, Fiona, 5 ans, disparaît dans un parc de Clermont-Ferrand. Après 4 mois d'enquête, la juge d'instruction place sa mère, Cécile Bourgeon, et son compagnon, Berkan Maclouf, en garde à vue. Face aux policiers, la mère de Fiona craque. Elle raconte que le 11 mai 2013, vers 18h, son compagnon Berkan Maclouf a frappé Fiona, violemment, au point de lui faire un énorme hématome à l'œil gauche. Elle dit qu'elle a soigné sa fille avec de l'arnica et que la petite s'est endormie. Et que ça n'est que le lendemain matin qu'elle l'a trouvée morte dans son lit et qu'elle lui a dit de se taire, de ne prévenir personne et qu'ils sont allés enterrer le cadavre de Fiona ensemble en lisière de forêt. Mais son compagnon, Berkan Maclouf, n'a pas du tout la même version. Et comme on n'a pas retrouvé le corps de Fiona, difficile de savoir ce qui s'est réellement passé.
On est habitué en tant qu'expert à rencontrer des sujets dont les affaires sont plus ou moins médiatisées.
Docteur Patrick Blacher, expert psychiatre.
Ce qui est problématique en matière de médiatisation, c'est qu'il y a des éléments qui nous sont connus par la presse, et il faut qu'on en fasse abstraction. Donc, généralement, on essaie tant que faire se peut de pas trop regarder la télévision et ne pas lire les articles de presse qui sont consacrés à l'affaire. Mais là, c'est un peu difficile, puisqu'elle était médiatisée avant même d'être mise en cause, puisqu'à l'époque, elle était médiatisée en tant que victime d'un enlèvement, en tout cas d'une disparition inquiétante.
Je lance un appel à tout le monde, tous les Clermontois, tous ceux qui peuvent nous aider, c'est vraiment un appel au secours. Et puis, ben, là, c'est le but, c'est de retrouver Fiona, c'est tout. On a vraiment besoin d'aide, quoi. C'est vraiment la seule chose que je peux dire.
J'avais été ému par le témoignage de cette femme, réitérée à la télévision, qui faisait part de la disparition de sa fille alors qu'elle faisait la sieste dans un parc de Clermont-Ferrand.
N'importe qui voit Fiona, n'importe qui a Fiona, qui me la ramène. Qui me la ramène, c'est tout. J'aurais jamais imaginé que ça serait passé ça. Mais du coup, quand on est face à ça, on comprend rien ce qui se passe. Et la seule chose, c'est récupérer Fiona, c'est tout. Après, le reste, il n'y a pas d'importance, c'est la retrouver. C'est une petite fille pleine de vie, une petite fille de 5 ans.
Donc c'était difficile de ne pas être perturbé par cette image de mère éplorée que j'avais vue comme tous les Français. Et lorsque je rencontre Madame Bourgeon, elle n'est plus cette mère éplorée. Elle est en prison, elle est mise en cause pour des faits dramatiques et son conjoint l'est également. Mais je rencontre une femme tout à fait ordinaire. Elle a un comportement tout à fait adapté. Elle est ni dans la séduction, ni dans l'opposition. Elle répond à mes questions, elle comprend très vite quel est le motif de ma visite.
Vous savez, docteur, moi, j'ai rien voulu de cette situation. C'est Berkan. Ça faisait 2 mois qu'il était violent avec Fiona, mais aussi avec moi. La petite rate est souvent à l'école, vous savez. Madame, quel souvenir avez-vous de la découverte de la mort de votre fille? Ce matin-là, dès que j'ai été réveillé, j'ai été chercher Fiona, elle était couchée. Sur le côté droit, je me souviens, elle était toute violette. Elle baignait dans son vomi. J'ai voulu appeler les secours, mais Berkane m'a dit non. Je lui ai obéi. Il a dit on va l'enterrer. Il a mis son cadavre dans un gros sac noir et on est parti en voiture. On n'a fait que tourner, tourner, j'en avais marre. Au bout d'un moment, j'ai vu une pelle dans un champ et voilà, Berkane a enterré le corps de Fiona. Et ensuite, il m'a dit, tu la fermes, tu fais ce que je te dis. Je lui ai obéi. J'ai peur de Berkane.
Pour elle, il est à l'origine des violences. Il est à l'origine, quelque part, du mensonge, de la méditation. Elle disait même qu'elle était débriefée par M. Maclouf après chaque passage à la télévision. Et que, en ce qui concerne la disparition du corps, elle dit là aussi qu'elle était simplement témoin de ce que M. Maclouf décidait. Les faits d'ailleurs sont peu datés. On ne sait pas exactement quand l'enfant a été tué. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on n'a jamais retrouvé le corps de l'enfant. Ce qu'il y a de certain, c'est que les deux disent qu'ils l'ont enterré et qu'ils sont incapables de retrouver l'endroit où le corps a été enterré.
En dépit de nouvelles fouilles, les enquêteurs n'ont toujours pas retrouvé le corps de la petite Fiona. Hier, ils ont encore une fois ratissé la zone près de Clermont-Ferrand où son cadavre a, semble-t-il, été enterré. Jeudi, sa mère avait été amenée sur place. Hier, c'est son beau-père qui a été extrait de sa prison pour participer aux recherches. Il avait dit qu'il aiderait à retrouver l'endroit où il avait creusé la tombe de la petite fille. Mais le flash espéré n'a pas eu lieu à son retour sur place.
Qu'est-ce qu'elle a fait du corps? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que son amnésie n'est pas liée à quelque chose de médical. Et que soit c'est quelque chose qui est reconstruit pour garder, sur le plan narcissique, un certain équilibre d'une mère qui n'est pas l'horrible mère que les médias ont décrit, soit elle le cache pour une raison utilitaire. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette amnésie n'est pas liée à une cause médicale. Je suis là pour essayer d'analyser sa personnalité. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir aussi analyser cette relation de couple qu'elle avait avec le mis en cause. Est-ce qu'elle était victime? Est-ce qu'elle était sous emprise? Ou est-ce qu'elle avait la capacité, justement, de mettre un terme à ces violences? En tout cas, celle dont elle dit que sa fille avait été victime. Chez Madame Bourgeon, on retrouve des traits de personnalité typiques de sujets qui sont très vite, non pas dépendants de l'autre, mais dans une relation fusionnelle à l'autre. C'est-à-dire que votre partenaire devient essentiel à votre équilibre et le quitter ou être quitté par lui est quelque chose d'inimaginable et qui vous ferait courir un risque d'effondrement.
Code B83. Expertise psychiatrique du docteur Patrick Blachler. En ce qui concerne la période des faits, Madame Bourgeon dit... À cette époque-là, on consommait beaucoup de drogues. La semaine des faits, on avait de la cocaïne et de l'héroïne. La veille du drame, on a pris 4 grammes de coke à 2. Ensuite, je suis allé me coucher. Je ne me suis pas rendu compte de ce qui allait se passer.
Et ce qui est particulier dans la relation qu'elle a avec M. Maclouf, c'est un troisième élément, ce que j'avais appelé moi un triouple, c'est la drogue. C'est qu'elle a trouvé quelque chose de particulier dans son idéal de vie. C'est quelqu'un qui partage sa passion, et je ne parle pas de dépendance ou de toxicomanie, sa passion pour la drogue. Elle a une fascination pour les toxiques. C'est que lorsqu'elle parle des produits qu'elle prend, notamment des champignons hallucinogènes, elle en parle avec le même plaisir qu'un œnologue quand il vous parle d'un vin qu'il a apprécié. Et ça, c'est quelque chose que l'on rencontre rarement. Donc, dans cette relation pathologique de couple qu'elle avait, il y avait des éléments qui sont liés à sa personnalité, peut-être aussi à celle de M. Maclouf, qui avait peut-être la même personnalité qu'elle, donc ils étaient codépendants l'un de l'autre, mais aussi parce que les deux partageait cette relation à la drogue qui était pathologique. Donc il y avait une dépendance qui était encore plus complexe, c'est que si elle quittait M. McLouche, elle quittait aussi ce triouple, parce qu'il était peut-être alors plus compliqué pour elle de se fournir en produits. C'est quelqu'un qui est très instable. Elle ne trouve son équilibre que dans cette relation fusionnelle, qui, comme un skieur de fond qui sera en déséquilibre, ne peut vivre que dans le mouvement ou en prenant appui sur les étais des bâtons, en l'occurrence chez elle, les bâtons, c'était la drogue.
Elle donne à voir une image qu'elle n'est pas tout à fait.
Hélène Dubost, experte psychologue.
Je la rencontre à la maison d'arrêt de Lyon-Corbat, à côté de Lyon. C'est une maison d'arrêt plutôt neuve. Je la vois au parleur avocat, c'est des petits box, une table, deux chaises, c'est assez spartiate. Et donc je l'attends. Et je la vois arriver au fond du couloir, au loin. Et ce qui me marque, c'est la manière dont elle se déplace. On a l'impression de voir arriver une princesse qui est vêtue d'une robe bordeaux, d'un serre-tête en laine à fleurs, de ballerines noires, de mitaines. Se déplace avec une certaine grâce et elle regarde devant toutes les portes devant lesquelles elle passe pour chercher la personne qui est venue la voir. Cette image plutôt avenante, plutôt aimable, on voit bien que si on gratte un petit peu derrière, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne chez elle. Elle répond aux questions, mais si j'essaie de lui demander des précisions, elle fait comme si elle ne m'avait pas entendu. Si j'insiste, elle insiste. Et très vite, on est le bon objet si on est d'accord avec elle, et on devient immédiatement le mauvais objet si on n'est pas d'accord avec elle. Et là, on a affaire à une autre facette de sa personnalité. C'est-à-dire une personne qui peut se montrer verbalement tout à fait agressive et qui est très tenace, très très tenace. Et il y a eu d'ailleurs un moment où je lui ai posé une question, j'ai mis en doute, j'ai interrogé ce qu'elle me disait. Et alors là, la réponse a été cinglante, cinglante. Elle a été d'une violence verbale qui m'a, je dois dire, moi-même sidérée.
Code B63, examen psychologique d'Hélène Dubost. Cécile Bourgeon est née le 2 octobre 1987. Elle avait environ 5 ans au divorce de ses parents. Sa garde et celle de son frère ont été confiées à sa mère. Son père a eu un droit de visite classique.
Il buvait. Il y avait des femmes le soir. Il nous prenait dans ses bras en nous disant « Je vous aime, mes enfants ». Et puis quand il nous faisait du mal, ben il nous donnait 10 francs.
Cécile Bourgeon évoque des violences, mais aussi des attouchements sexuels dont elle aurait été victime de la part de son père.
Ce sont des sujets qu'on dit abandonniques. Ils ont été carencés sur le plan affectif. Elle l'a été. Elle relate une enfance très insécure, avec un père qu'elle décrit comme à la fois très maladroit, et surtout comme irresponsable, avec une hypersexualisation des contacts. Elle raconte notamment un rapport à la nudité. Son père l'aurait amené dans des discothèques homosexuelles, aurait tenu des propos sexuels inadaptés devant elle alors qu'elle était enfant. Elle dit avoir été pris en photo nu avec son frère alors qu'ils avaient 10 ans et être très gênée. Elle dit « Je me revois dans cette photo en train de masquer mes organes génitaux, mon frère aussi, elle avait un frère plus jeune. » Et ça, ce sont des éléments qui laissent penser qu'elle a vécu en tout cas son enfance comme extrêmement carencée sur le plan affectif. Et cette carence affective, réelle ou pas, avec un père qu'elle décrit comme irresponsable. Et d'une mère qui ne suffit pas justement à combler ses difficultés parce que le couple est séparé. votre enfance, vous n'avez pas ces éléments structurants, eh bien, vous n'allez pas construire votre personnalité de façon à être équilibrée. Et à l'âge adulte, vous aurez toujours cette instabilité, cette recherche d'équilibre, puisque vous ne le trouvez pas en vous. Et chez Madame Bourgeon, quand il y a eu cette carence affective, eh bien, votre personnalité, votre structure va être fragile. Et ces sujets, à l'âge adulte, on n'a pas l'impression qu'ils sont malades, mais en fait, leur structure est extrêmement fragile et ils vont essayer de combler cette fragilité par des biais, soit l'hyperactivité, l'instabilité, soit la drogue, soit une relation de couple fusionnelle.
Code B50, expertise psychiatrique du docteur Jean-Marc Elchadus. Au plan scolaire, Cécile Bourgeon dit « Ça n'allait pas super bien, j'avais des difficultés pour apprendre, mais bon, c'est vrai que je ne faisais pas beaucoup d'efforts. » Cécile Bourgeon a redoublé le CE2. Elle n'a pas obtenu son brevet des collèges. Elle a été orientée dans un lycée professionnel. Elle commence à consommer de la drogue. Après le lycée, elle a multiplié plein de petits boulots, serveuse, femme de ménage, ouvrière. On sait Nicolas, c'était mon premier petit copain. Il m'a tout appris sur les drogues. On est restés ensemble 8 ans. En 2007, je suis tombé enceinte de Fiona. Je souhaitais pas particulièrement être maman, mais bon, j'étais contente de cette grossesse. Je me suis dit, je veux une belle enfant, comme ma petite voisine. Elle était blonde aux yeux bleus. Elle me faisait craquer. Je voulais la même, quoi.
C'est comme si elle était dans un magasin de sacs et qu'elle voit un sac qui lui plaît particulièrement et elle dit « Ah, je craque, je vais rentrer l'acheter ». Le désir d'enfant est réduit à un stade d'objet. Enfin, elle ne se projette pas autrement que pour ce que cela représente, pas pour ce que cela est, du verbe « être ». Et d'ailleurs, elle en parle très très peu de sa fille. Elle a parlé de ses enfants comme des objets. À un moment, elle m'a montré une photo de sa deuxième fille avec son fils. Voilà, on voyait deux enfants magnifiques en train de jouer. C'est l'image, c'est le cliché, c'est la photo. Elle était incapable de m'en dire quelque chose d'autre que concernant Fiona, c'est ma princesse. Voilà, une enfant déifiée, mais pas une enfant de la réalité.
Si on s'en tient à ses déclarations devant la télévision, on pourrait penser qu'elle avait une empathie extrême pour cet enfant. Quand après coup, vous savez qu'elle savait très bien que son enfant n'était pas disparu, mais était morte. C'est ce qui nous fait dire que pour Madame Bourgeon, les enfants étaient plus des objets de revalorisation que des sujets qu'elle pouvait réellement aimer. Elle a du mal à aimer les gens, à avoir de l'empathie, à ressentir. Elle est quand même très particulière, puisqu'elle est capable de maquiller sa fille pour qu'on ne voit pas les traces de blessures quand elle va à l'école. Et puis, lorsque elle découvre l'enfant décédé dans son lit, Violette, je lui demande quand même si elle se souvient comment l'enfant était habillé, quelle était la couleur des draps. Elle est capable de me raconter de façon très factuelle que l'enfant n'était pas habillé parce qu'elle avait vomi et que les draps étaient des draps qui étaient ceux d'un dessin animé que Fiona aimait bien. Et ça, c'est particulier parce qu'elle est quand même très attentive à son enfant. Par contre, sur le plan des affects, j'en suis pas certain qu'elle soit capable d'avoir un réel sentiment d'empathie pour ses enfants, que ce soit Fiona ou que ce soit les autres.
Pendant toute l'instruction, la mère de famille raconte que son compagnon a battu à mort Fiona et qu'ils se sont débarrassés de son cadavre en lisière d'une forêt. Problème, cette version n'est confirmée par aucun élément matériel. Le corps de l'enfant ne sera jamais retrouvé. Et de son côté, Berkane Matlouf répète que cette version est fausse. Il n'a pas tué Fiona. Il l'a découverte au petit matin, morte dans son vomi. Pour comprendre la dynamique de ce couple, après avoir vu Cécile Bourgeon, l'experte psychologue Hélène Dubost rencontre Berkan Makhlouf, le compagnon.
Je l'ai vu, je crois, deux fois, enfin plusieurs fois. Les deux entretiens ont été extrêmement tumultueux. C'est quelqu'un qui était très 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 mal à l'époque, qui se sentait complètement persécuté, qui tenait des propos logoréiques avec un sentiment de persécution. Il pensait que les surveillants voulaient l'empoisonner, il ne voulait plus manger quoi que ce soit. Il était très agressif, il s'est levé, il a jeté sa chaise. Enfin, c'est quelqu'un de toute évidence, et d'agressif verbalement et de violent physiquement. J'en étais le témoin.
Écoutez la colère du beau-père de la fillette à l'encontre des journalistes qui se trouvaient devant son domicile. C'était il y a un peu plus de 4 mois.
J'en souris, arrêtez quand même. On est déjà en train de péter un plomb. On est en train de péter un plomb. Nous-mêmes, déjà, on a retrouvé notre gamine. On sait pas où est notre pépette. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on n'est pas en train de devenir fou? On est en train de devenir fou déjà dans l'appartement. On dirait que vous êtes là, vous pouvez profiter de la misère des gens là. C'est bon maintenant. Maintenant on aimerait avoir la paix un petit peu.
Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de Code B dans un deuxième podcast déjà disponible sur votre plateforme.